Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
En quoi consiste la bénédiction de Dieu? Qui peut dire qu'il est béni? Et pourquoi? Voilà le thème de la série d'émissions que nous continuons aujourd'hui. Nous l'aborderons en nous appuyant essentiellement sur les psaumes.
Notre invité Jean-Marc va nous aider dans nos discussions. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il va nous expliquer pourquoi ce thème est si important. Cédons-lui tout de suite la parole.
Merci Yann et bonjour à tous. Avez-vous déjà entendu des chrétiens aisés s'exclamer « Je suis béni parce que le Seigneur me comble de richesses et de biens ». Mais alors, en suivant un tel raisonnement, les pauvres ne devraient-ils pas en conclure que du fait de leur pauvreté, ils ne sont pas bénis par Dieu? Si nous concevons la bénédiction de Dieu essentiellement en termes de biens matériels, tous ceux qui n'atteindraient pas leurs aspirations pourraient se demander s'ils ne sont pas privés des bénédictions de Dieu. Définir la bénédiction selon les critères tels qu'une bonne éducation, une bonne réputation, la prospérité, la réussite dans ses entreprises, une bonne santé, pourrait laisser les gens pauvres, démunis et désavantagés, perplexes et abattus. Si pour nous la bénédiction, c'est posséder matériellement, alors nous donnons une image fausse de Dieu. Une image qui ne reflète pas du tout le langage biblique lorsqu'il dépeint ce que la bénédiction est réellement, et en faisant cela, nous pouvons priver beaucoup de gens d'un précieux confort. Travailler pour améliorer sa vie, vouloir poursuivre ses études, travailler dur pour la réussite de ses entreprises, sont des aspirations louables. Toutefois, la bénédiction de Dieu est un ordre tout à fait différent, car selon la Bible, on peut être démuni ou malade, désavantagé ou maltraité, et pourtant jouir de la bénédiction de Dieu. Mais en quoi consiste cette bénédiction de Dieu? Nous allons le découvrir lors de cette série à travers les psaumes.
Merci Jean-Marc pour cette introduction. Nous comprenons l'enjeu autour de cette question, en quoi consiste la bénédiction de Dieu. Mais par où allons-nous commencer aujourd'hui?
Nous allons commencer par la lecture d'un psaume entier, le psaume 1. Cédons la parole à Sandra.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine.
Comment être heureux? Comment pouvoir recevoir la bénédiction de Dieu? Ce psaume nous donne en bref deux conseils. D'abord, une démarche à éviter, car elle nous éloignerait du Dieu qui bénit, et ensuite une démarche recommandée, car elle nous rapprocherait du Dieu qui accorde la bénédiction.
Commençons alors avec la démarche à éviter. Quelle est-elle?
L'auteur du psaume nous conseille très fortement de ne pas tomber sous l'influence de gens mauvais. Je reprends le premier verset. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. »
Dites-nous en davantage sur ces gens.
Il s'agit de personnes qui pratiquent ouvertement le mal et qui encouragent les autres à faire de même. Ces gens ne se gênent pas pour désobéir aux lois que Dieu a données. Ils ne cachent pas non plus leur mépris pour l'Éternel. Ce sont des personnes qui s'opposent à Dieu et qui se moquent des croyants. Malheureusement, certaines de ces personnes peuvent paraître gentilles. Elles semblent s'intéresser à nous et avoir nos intérêts à cœur. Leurs propos peuvent paraître raisonnables et séduisants, mais au fond, elles redéfinissent le mal et le bien et cherchent à nous éloigner de Dieu.
Donnez-nous quelques exemples, s'il vous plaît.
Il y aurait de très nombreux exemples.
En voici quelques-uns. Lors de fêtes, vos copains peuvent vous inciter à consommer trop d'alcool ou même à prendre des drogues. Vous pouvez rencontrer un bel homme séduisant ou une jolie femme avenante. Mais ces personnes peuvent vous séduire et vous pousser à avoir des relations sexuelles hors du mariage. Sur votre lieu de travail, certains collègues ou employés peuvent vous encourager à devenir malhonnête, à tricher ou à obtenir des faveurs par la voie de la corruption. C'est malheureux à constater, mais nous sommes entourés de mauvaises influences.
Mais si ces mauvaises influences sont partout, comment les éviter ?
Il est vrai que nous ne pouvons pas nous retirer entièrement de la société qui nous entoure. Nous ne pouvons pas simplement rester à la maison. Nous devons aller à l'école, à la fac, nous sommes obligés de travailler et ainsi de côtoyer de nombreuses personnes, dont nos voisins, et nous ne pouvons pas les ignorer.
Que faire alors ?
Je voudrais vous donner deux conseils. D'abord, il peut y avoir des circonstances où nous ressentons la pression de ces mauvaises influences à tel point qu'il devient nécessaire de couper net avec la personne ou le lieu en question. Si nous connaissons nos faiblesses et savons que certains amis sont des occasions de chute, alors il est parfois préférable de ne plus les voir. Toutefois, étant donné que nous ne pouvons pas arrêter toute fréquentation, nous devons apprendre à bien discerner le mal du bien et à bien résister aux tentations et aux influences. D'ailleurs, ce psaume aussi nous donne une certaine sagesse qui nous permet d'acquérir de bonnes qualités. Cependant, avant d'aborder cela en détail, j'ai d'autres remarques à faire.
Je vous en prie, quelles sont-elles ?
Le psaume souligne que nous sommes heureux et bénis si nous évitons ces mauvaises influences et que nous courons vers le malheur et la malédiction si nous tombons sous leur domination. Au cours de cette série d'émissions, nous avons appris que la vraie bénédiction consiste à connaître Dieu et à vivre en harmonie, en communion avec lui. Si nous cédons aux pressions qui nous entourent, si nous commençons à pratiquer le mal sans gêne, et que nous nous moquons de Dieu et de son peuple, alors nous ne jouirons plus de cette bénédiction que je viens d'évoquer. Plus encore, le psaume affirme que la ruine et le malheur attendent ces personnes. Parfois leur vie semble enviable, ces gens ont l'air heureux, tout semble leur réussir. Cependant leur bonheur est, selon le psaume, très fragile. Les conséquences de la pratique du mal se révéleront tôt ou tard. Et puis surtout, la justice divine attend ceux qui poursuivent le mal. En effet, ils seront condamnés à une peine éternelle.
Le monde est attirant. Cependant, nous comprenons que la vraie bénédiction ne s'y trouve pas. Au contraire, si nous nous mettons dans le camp des méchants et des moqueurs, sans jamais lui repentir, alors cette bénédiction restera hors de portée. Jean-Marc, vous avez dit que le psaume nous recommande une démarche particulière. Quelle est-elle ?
Oui, cette démarche nous permettra de mieux résister aux pressions exercées sur nous par les méchants et les moqueurs. Elle nous permettra de rechercher et de jouir de cette bénédiction qui consiste à connaître Dieu. Citons le verset 2 du psaume 1. « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. »
Dites-nous en davantage sur la loi de l'Éternel et le sens du mot « méditation ».
Oui, il faut savoir que les psaumes ont été écrits des centaines d'années avant Jésus-Christ. À cette époque-là, la Bible n'existait pas telle que nous l'avons aujourd'hui. Cependant, il existait tout de même certains écrits qui étaient considérés comme la parole de Dieu. Il s'agissait surtout des 5 premiers livres de notre Bible, autrement dit, du Pentateuque. Ces livres racontent l'histoire du peuple de Dieu et ils contiennent aussi beaucoup de lois et de règlements pour encadrer la vie sociale et spirituelle de ce peuple. Aujourd'hui, nous sommes privilégiés car nous avons la Bible entière. Elle nous permet de connaître Dieu et de discerner le mal et le bien. À présent, que signifie la méditation ? Pour beaucoup de nos jours, il s'agit d'une technique pour vider notre esprit de toutes pensées négatives ou troublantes en vue d'atteindre une certaine tranquillité. Or, le sens biblique du mot est différent. Il s'agit plutôt de remplir nos pensées de la vérité divine. Méditer la Bible, la parole de Dieu, c'est prendre le temps de la lire, c'est faire l'effort de la comprendre, c'est réfléchir sur sa pertinence dans notre vie personnelle.
Et en quoi cette méditation de la parole de Dieu représente-t-elle une bénédiction?
Le psaume nous donne une belle illustration, celle d'un arbre planté près d'un cours d'eau. Un tel arbre survivra par temps de sécheresse et continuera à porter du fruit, alors que les arbres qui se trouvent loin du ruisseau risquent de dépérir. Voici le sens pour nous. Le croyant passera toujours par des temps d'épreuve. Mais s'il continue à méditer la parole de Dieu, il apprendra l'endurance et à résister aux tentations. Il grandira même intérieurement, malgré les difficultés considérées. De même, quelles que soient ses circonstances, s'il demeure avec Dieu, le croyant continuera à porter du fruit. C'est-à-dire qu'il ressemblera davantage à Jésus et que les belles qualités divines telles que l'amour et la douceur, la fidélité et la patience, la bonté et la maîtrise de soi se verront de plus en plus dans sa vie. La méditation de la parole de Dieu nous aide à mieux le connaître et donc à mieux jouir de ses bénédictions merveilleuses. Car persévérer dans notre marche avec Jésus et être transformé par son esprit sont des bénédictions. Or, toutes ces bénédictions sont alimentées par la méditation de la parole.
Nous avons commencé notre émission en parlant des mauvaises influences. La méditation de la parole de Dieu peut-elle nous aider à y résister?
Oui, bien sûr. Je dirais que la méditation de la parole de Dieu est vitale, et ceci pour deux raisons. D'abord, le psaume évoque la loi de l'Éternel. Il est vrai que lorsque nous sommes confrontés aux idées du monde et aux gens qui nous poussent à prendre leur direction, il est important de savoir quelle est la volonté de Dieu. Méditer la parole de Dieu nous aide à discerner le bien du mal. Elle nous aide à faire de bons choix et à prendre de bonnes décisions. Par la méditation de la parole de Dieu, nous acquérons une sagesse nous permettant de bien vivre nos vies selon la droiture et la pureté. La Bible nous donne des certitudes face aux idées confuses du monde qui nous entoure. Puis, la méditation de la parole de Dieu nous aide, comme affirme l'illustration de l'arbre, à tenir ferme dans la foi, à résister aux tentations, à dire non aux gens qui nous poussent à pratiquer le mal. Oui, la Bible nous donne la force nécessaire pour tout surmonter. Et c'est pour cela, et toutes les raisons que j'ai citées, que si nous la méditons souvent, nous sommes bénis.
Merci Jean-Marc pour votre intervention instructive et enrichissante. Chers amis, en attendant de vous retrouver la prochaine fois pour la suite de cette série, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.